Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Gérard Klein et Patrick Dussoulier qui vont nous parler de Limbo, qui est l'unique livre écrit par Bernard Wolff.
C'est pas tout à fait son unique livre, mais c'est son unique roman.
Son unique roman.
À ma connaissance.
Est-ce que vous nous entendez là? Oui,
oui.
J'ai l'impression que.
Non, mais.
Faut parler fort. Dans ce...
oui. Non, c'est surtout qu'on n'a pas les retours. On n'a pas les retours micro.
Bon, enfin, l'essentiel est que. Oui, c'est... il a écrit plus.
Alors, ce qu'on va faire, peut-être, c'est qu'on va se rapprocher. On va se rapprocher bêtement parce que nous, on ne s'entend pas.
Oui, c'est curieux.
Non.
C'est la technique, là. Oui.
Voilà. Vas-y,
c'est
Gérard.
Mieux ? Oui, c'est mieux, là.
En parlant fort dans le micro. Donc tu nous disais que
oui,
Limbo n'est pas son seul livre.
Non, il a écrit avant ça un livre avec Mesmezro, qui était probablement un livre de commande, qui est d'ailleurs paru également chez Lafon. Enfin, il a son œuvre littéraire est extrêmement mince. C'est principalement Limbo, qui date de 1952, si je me souviens bien, et qui est traduit en français pour les éditions Robert Laffont, qui paraît en 1955, dans une collection de littérature générale étrangère. Le livre n'a absolument aucun succès. Moi, je le lis à l'époque, et quand Robert Laffont, en 1969, me permet de créer Ailleurs et Demain, je souhaite évidemment, le plus vite possible, le rééditer. Alors, dans la série classique, je réédite Limbo. Mais je n'ai pas le texte anglais. Le texte anglais est introuvable. L'auteur, personne n'a l'air de le connaître. Je ne sais même plus très bien comment les gens de chez Laffont ont fait. Je l'ai réédité en 1971, je n'étais pas encore très expert. Je suppose que chez Laffont, on l'a réimprimé parce que le contrat passé en 1954 ou 1955 était considéré comme toujours valable. Et Robert Laffont était très heureux de cette réédition. Parce que il avait aimé le bouquin dans la première édition et il avait été un peu blessé du silence radio total qui avait accompagné sa parution.
Et quelles ont été les raisons qui t'ont fait Alors tu l'as lu en français déjà.
Moi j'ai lu en français.
Et uniquement en français.
J'ai uniquement en français et quand j'ai voulu le rééditer en 1971. Bon, je ne me souviens pas très très bien des circonstances, mais outre que je ne me posais pas la question de savoir quel était le texte, personne n'a été capable de me procurer le texte anglais. C'est-à-dire, je crois qu'à l'époque, il était absolument introuvable. Je crois qu'il était introuvable, personne ne représentait Bernard Wolff. J'ai pris le texte tel qu'il était, j'ai collé une préface enthousiaste devant en disant que pour moi c'était une des plus grandes anti-utopies à côté du meilleur des mondes de nous autres et de 1984. Ça a eu un honnête succès d'ailleurs sans plus, enfin, ça n'a pas été bide, mais c'était donc le texte de 1955 dans la collection de littérature générale chez Laffont.
Oui, alors pour la suite de l'histoire, c'est qu'en 2012, moi je l'avais jamais lu en anglais non plus, je le cherchais vainement, et en 2012, j'aperçois une réédition par une maison d'édition qui s'appelle West Home sur Amazon, et donc je l'ai commandé. Et quand j'ai reçu le bouquin, j'ai été étonné parce que il était aussi épais que l'édition de Gérard de 71, même nombre de pages, grosso modo, même police de caractère, même mise en page. Ce qui est une anomalie, puisque un texte français, en général, fait grosso modo 20% de plus. Quand on traduit un texte anglais, ça fait un texte 20% de plus. Donc, il y avait un problème résolu au bout de 5 minutes. Je les ai parcourus rapidement. J'ai vu qu'un chapitre était la moitié dans la traduction de la VO. c'était truffé d'amputations, grosso modo 20%, et après, je reviendrai là-dessus si vous voulez, mais j'ai calculé, c'est 22,5% du texte original qui avait été amputé. J'ai le détail chapitre par chapitre. Ce qui s'est passé, c'est que voyant ça, et comme de temps en temps, je rencontre mon ami Gérard, au cours d'un dîner, bien arrosé, bien sûr, je lui dis, regarde, je t'ai apporté le texte anglais, et regarde, il y en a, regarde cette page-là, regarde ce chapitre, il en manque plein. Alors, je ne l'ai pas accusé d'incurie à l'époque, puisqu'il n'avait pas, il m'a expliqué, il n'a pas eu l'accès. Il était très repentant, ça je reconnais, un Gérard repentant, c'est assez chouette. Et puis, on en est resté là, parce qu'il m'a dit qu'il aurait bien aimé pouvoir en assurer la retraduction. Il n'était pas question de reprendre l'édition existante. Et puis, et qu'il ne pouvait pas. Voilà. Et puis, il ne s'est plus rien passé de mon côté. Donc, tu peux prendre le relais. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un jour, Audrey Petit me téléphone me propose de le traduire?
Il s'est passé que j'ai dû en parler, je ne sais plus très bien. Enfin, de toute façon, j'avais terriblement envie que ce texte reparaisse in extenso. Et j'ai dû en parler avec Audrey Petit qui a... en quelque sorte repris le flambeau que j'ai dû quitter au livre de poche. Soit dit en passant, une de mes plus grandes fiertés dans l'édition, à côté d'ailleurs et demain, c'est quand même la série science-fiction du livre de poche où j'ai publié 300 titres, quelque chose d'approchant, et de très très belles choses. Donc j'en ai parlé à Audrey Petit, excusez-moi, qui a convaincu la direction du livre de poche de publier une nouvelle traduction qui serait confiée et ça a été fait, enfin vous l'avez entre les mains, et c'est donc un texte doublement neuf que vous avez entre les mains, d'abord parce qu'il est complet et ensuite parce que le traducteur initial, qui était un bon traducteur et un bon écrivain par ailleurs, s'était permis énormément d'infidélité.
Oui, je m'étais promis et je me promets toujours, je ne parlerai pas en détail de la première traduction parce que, comme on dit en latin, de mortuis nihil nisi bonum, que je n'ai pas besoin de traduire. Il s'appelait Alex Graal et il était quelqu'un de très important dans l'édition. Il a joué un rôle très important. Il était chez De Noël, hein. Il était directeur chez De Noël et il a travaillé... Oui, il a fait des choses très bien, mais cette traduction n'était peut-être pas son titre de gloire. Voilà.
Alors, la question que je me pose quand on fait une retraduction, est-ce qu'on part du texte? Alors, est-ce qu'on confronte l'ancienne traduction à l'original et on s'appuie sur l'ancienne traduction pour construire la sienne, ou est-ce qu'on on fait comme si on n'avait jamais lu le livre en français et on retraduit de rien en partant d'une page vierge?
Alors c'est la deuxième solution. Si j'avais accepté de faire une révision, évidemment, je serais parti de la traduction d'origine. Mais si on retraduit, comme on met de côté le texte de la traduction précédente, on la regarde pas, on fait son travail. Comme j'expliquais à quelqu'un qui m'interrogeait tout à l'heure, à certains moments de la traduction, j'allais pas chercher comment il avait traduit un passage, mais c'était pour la nomenclature. Qu'est-ce qu'il avait utilisé pour des néologismes utilisés par Wolff? Et puis je regardais, et puis je me disais, autant à ce stade-là, si ce qu'il a fait était bien, autant garder ça plutôt que de partir dans l'idée que j'avais. Et puis, ou bien sinon, je disais, dommage. Un exemple, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont l'édition précédente. Elle existe au livre de poche. Audrey me confirme, ça a été réédité plusieurs fois. Mais les amputés de l'IMOB, en anglais, on les appelle AMP, A-M-P. Et puis, j'ai gardé A-M-P pour amputer. Mais le traducteur avait décidé de les appeler des raccours. Les raccours pour raccourcis. Je trouve que c'est un cas assez curieux. Alors qu'il y avait une abréviation, et en plus une abréviation pour amputer, c'est bien. Hein. Donc AMP, ça marche tout à fait. Non. Donc voilà. Donc c'est le genre de cas. On dit, tant pis, il a fait ça. De même, il appelait l'IMOB. Moi, j'ai décidé de choisir. On dit l'IMOB. comme on dit, le communisme, le capitalisme, le néolibéralisme. Parler de immeuble sans article, en français, c'est idiot. On ne dit pas comme ça. Mais comme en anglais, il n'y a pas d'article, je soupçonne ce traducteur d'avoir été assez fidèle servilement à des structures. Donc, il y a un calque, là, en quelque sorte, comme on dit dans le métier. Donc, voilà, il y avait... Alors, ce que j'ai fait, en revanche, c'est qu'une fois que j'ai terminé ma traduction après des relectures, j'ai fait l'exercice que je vous évoquais, c'est-à-dire repérer toutes les parties de l'original qui avaient été supprimées. Alors, j'avais ça sous forme de document Word, la VO, j'avais le bouquin français, et donc j'ai suivi en surlignant sous Word tous les passages manquants. C'est comme ça que j'ai déterminé que c'était 22,5%. Ça m'a permis aussi, alors là, de découvrir en quelque sorte, un peu en diagonale, la traduction d'origine et de trouver des choses comme le nom du fils de Martine, qui s'appelle, qui est horrible dans la traduction, la première traduction, il s'appelle Rembo, R-E-2-M-B-O. Rembo, c'est pas un prénom. Moi, je l'ai appelé Rembo, R-I-M-B-O, parce que le docteur Martine, qu'est-ce qui a lu Limbo ici dans la nouvelle version? Dans la nouvelle? Et dans l'ancienne? Eh bien, Rembo, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Dr Martine explique à son fils, je t'ai appelé Rembo parce que c'est en hommage à un poète français qui s'appelle Rimbaud. Et effectivement, Rimbaud, en anglais, ça se prononce Rembo, et dans l'original, il s'appelle pas, il s'appelle Rambo, R-A-M-B-O. Alors, Rambo, je ne pouvais pas. Hein. Mais donc, en français, ben, c'est tout simple. Il s'appelle Rimbaud, R-I-M-B-O. Mais avoir voulu retranscrire la prononciation américaine phonétiquement avec deux M, c'est un peu spécial. Bon, puis j'ai trouvé d'autres maladresses. Mais ce que je voudrais aborder, mais c'est ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse, c'est la nature de ces coupures. Et on a une hypothèse de base, hein, c'est que vraisemblablement les éditions Lafon ont trouvé que ça constituait un trop gros pavé pour être vendu à l'époque. Ça fait quand même 710 pages, 720 pages dans l'édition du livre de poche maintenant, y compris bien sûr les deux préfaces de Gérard, ça prend de la place. Mais enfin, c'était peut-être trop gros, c'était peut-être des économies de papier, manifestement. Ils ont voulu ramener un format commercialement acceptable. Ce que nous ne saurons jamais, c'est est-ce qu'on a demandé à Alex Graal de tout traduire et qu'ensuite quelqu'un est venu tailler, ou est-ce qu'on a demandé, parce que ça arrive à des traducteurs, j'ai des collègues à qui c'est arrivé, on leur confie une traduction et en disant « tu m'en retires le tiers ». Moi, je refuserais un truc pareil parce que c'est pas du boulot, mais peut-être que c'est ça qui s'est passé.
Je ne crois pas.
J'ai donc observé que beaucoup de suppressions sont ce que j'appelle les macro-coupures. C'est 2, 3, 4 pages d'affilée de considérations philosophiques, les discours de l'anti-pro dans le magasin, des considérations qui sont en fait celles de Bernard Wolff, hein, bien sûr, sur la société, le masochisme, etc. Il en restait, hein, mais de grands pans comme ça sont retirés. Les rêves, il fait des rêves, il fait un rêve fabuleux avec une girafe qui bouffe l'enseigne au néon. Ça a été complètement coupé, ça. Ces envolées sous l'empire de la drogue sont fortement réduites. Tout ça, c'est les grands morceaux. Et puis, il y a les micro-coupures, où c'est une phrase par-ci, deux phrases par-là, une référence à Freud, peut-être. Et puis, quelquefois, je sais que c'est des phrases qui comportent des pièges de traduction assez un peu difficiles. Et je soupçonne mon confrère d'avoir peut-être profité de l'occasion, puisqu'il fallait réduire, il en a... Voilà. Mais personne n'a lu la nouvelle édition.
Attends, je voudrais intervenir là parce que je veux pas du tout, non, mais je voudrais pas du tout exonérer Alex Graal et Robert Laffont de leur comportement indigne, mais je voudrais simplement rappeler que dans les années 1950, les habitudes de traduction n'étaient pas du tout celles qu'en général, mais hélas pas toujours, on a préféré adopter par la suite. C'était une habitude générale chez les meilleurs éditeurs, je vais en citer quelques exemples, de couper les textes pour que ça rentre dans un format. Par exemple, à la série noire chez Gallimard, la plupart des titres anglais et américains de la série noire ont été divisés carrément par deux. À tel point on s'en aperçoit à l'occasion des rééditions et de nouvelles traductions récentes. Alors en fait, je suis persuadé que c'est ce qui est arrivé à Graal. On lui a dit, personne n'est repassé derrière, on lui a dit, bon voilà, vous allez m'alléger ce bouquin, vous ferez, à l'époque on comptait pas tellement en signes, mais enfin vous ferez tant de pages, point final, et puis débrouillez-vous pour faire les coupures aux meilleurs endroits possibles. Et il a fait. En plus, dans un certain nombre de cas, ça lui a facilité la vie parce qu'il y a des passages du Bernard Wolfe, de Limbo, qui sont franchement difficiles à rendre en français. Bah, il a évité. Mais encore une fois, je vais resituer ça dans les habitudes de l'époque, qui d'ailleurs, chez Gallimard, par exemple, n'épargnait pas Faulkner. Hein. On taillait, on tranchait, ou on faisait des contresens absolument monstrueux. Personne ne passait derrière. Et ça arrivait comme ça. Donc, c'est, je dirais, quand je suis arrivé chez Laffont en 1969 avec Ailleurs et Demain, j'ai beaucoup choqué le service étranger avec une exigence de fidélité des traductions. Et j'ai pendant au moins 2 ans ou 3 ans eu d'énormes difficultés. D'abord, je n'ai pas une très grande expérience de l'édition ni d'ailleurs de la traduction, mais parce qu'on me refilait des traducteurs qui avaient été formé, si j'ose dire, ou plutôt déformé tout à fait à l'envers, et qui me remettait des traductions absolument imbuvables. Je me souviens de le Vagabond de Fritz Leiber. J'ai passé un été entier à refaire ou à arranger du mieux que je pouvais. Je n'ai pas refait complètement comme j'ai pu faire, mais à arranger du mieux que je pouvais la traduction, parce que, un, le traducteur n'avait pas tout compris, et deux, il se l'avait raconté, ce qu'il arrangeait, etc. Et j'ai mis au moins 3 ans à persuader tout le monde que ce n'est pas comme ça qu'il fallait travailler. Alors évidemment, quand de longues années après, je suis tombé à l'occasion d'une traduction très médiocre de Jack Vance, du Monde d'Azur, j'ai demandé à Patrick de jeter un coup d'œil dessus, en lui demandant initialement est-ce que tu pourrais pas l'améliorer un peu. Bon, il a regardé, il m'a dit c'est tout à fait exclu, il faut la refaire complètement. Je lui ai dit j'ai pas les moyens, il m'a dit je vais le faire. À la suite de ça, il a fait une traduction admirable. À la suite de ça, il a travaillé continuellement pour moi. Rassurez-vous, il a été payé.
J'ai été bien payé, oui. Alors, malheureusement, ça se tarie. Hein,
ce que j'aimerais que Patrick fasse, peut-être, c'est un, parce qu'il connaît ça aussi bien ou même mieux que moi, c'est un petit historique des éditions anglo-saxonnes, des éditions anglaises et américaines, oui. Parce que rien n'est simple dans l'histoire de Limbo.
Alors, bon, j'ai plus, tu l'as rappelé dans tes préfaces, mais il y a bel et bien eu donc l'édition originale, Scheister, non, quelque chose comme ça. Scheister. Il y a eu une édition quelques années plus tard, là donc on est en 52, il y a une édition de 61, édition anglaise, chez Penguin. Et celle-là, je me la suis procurée, hein, j'ai réussi à la trouver. Qui s'appelle Limbo 90. Et cette édition, Penguin, qui est, j'allais dire, plus honnête que Laffont, avait bien noté que c'était une édition abrégée. Et donc j'ai fait l'étude de cette édition par rapport à la VO que j'avais. Et alors là, Penguin est beaucoup plus fort que Laffont. Ils en ont retiré à peu près 33%, un tiers. Et alors là, l'édition Penguin est affreuse. Parce que c'est, il y a plus que la peau et les os. Ils ont retiré toute la chair de qui fait le roman, et encore la peau. Il y a des lambeaux qui se détachent. Parce que ça privilégie plus que l'action, forcément. il y a les événements, c'est de l'événementiel. Voilà, ils se baladent. Toutes les réflexions intérieures, les discours, les présentations de Jojo, l'ami de punaise, il ne reste plus rien. Et je me demande pourquoi des éditeurs comme Penguin veulent... Ce serait la collection de la Bibliothèque Verte, c'est bien pour la jeunesse. Moi, j'ai lu Dumas, Jules Verne, dans des versions abrégées. C'est des années après, je me suis rendu compte. Mais couper un chef-d'œuvre pareil, je vois pas l'intérêt. Et alors, tu m'avais parlé de l'édition Ace. Ace aux États-Unis.
Alors, j'ai fini par obtenir une édition Ace qui avait été faite par Donald Wolheim, qui a été un ami d'ailleurs. Et pour cette édition Ace, semble intégrale. Elle est parue elle n'est pas datée de façon précise, mais elle est parue quelques années après l'édition originale. Et apparemment, Wolheim a repris intégralement l'édition originale. Alors, la question pour l'édition Penguin. D'abord, ça ne correspond pas aux coupures de la traduction française. Hein, et d'autre part, qui a fait ces abréviations? Bernard Wolff était toujours vivant. Est-ce que ça s'est fait avec son accord? On ne sait pas. J'ai questionné là-dessus l'homme de la grande encyclopédie, enfin la grande encyclopédia of science fiction. Et il a même lui-même fait des recherches et il n'a rien trouvé. Enfin, donc il y a un mystère qui plane sur les éditions françaises, c'est éclairci, et britanniques ou américaines de ce livre qui a été ou qui va être réédité.
Alors,
attends, il y a encore plus, il y a un truc assez étonnant, c'est que l'édition sur laquelle j'ai travaillé, toi peut-être aussi, qui est une édition apparemment complète, a été une édition pirate.
L'édition Westholm dont je parlais a été retirée de la vente quelques temps après parce que l'éditeur n'avait pas respecté les droits d'auteur. Donc, on peut l'appeler pirate. Disons, je connais un peu la législation américaine là-dessus. C'est assez compliqué. L'éditeur a pu faire ça de bonne foi, pensant que parce qu'aux États-Unis, souvent, il y a des trucs, il faut renouveler le copyright régulièrement. Il y a des nouvelles de Jack Vance comme ça qui sont tombées dans le domaine public parce qu'il a oublié ou son agent a oublié. Donc, Westholm est ressorti de la circulation. Vous le trouverez peut-être encore d'occasion. C'est possible, mais... En tout cas, c'est vraiment une histoire assez étonnante. Il y a plein de tribulations de Limbo. Il y a aussi un autre détail que tu mentionnais, donc ça je l'ai vérifié, c'est que effectivement l'édition Penguin abrégée, comme vous avez, je vous l'ai dit, 33%, là c'était 22%. Il y a des tas de passages retirés de Penguin qui figuraient dans l'édition la première traduction française. J'ai d'ailleurs fait une analyse. J'ai un document Word dans lequel il y a trois couleurs. Une couleur pour tous les passages qui ont été supprimés dans les deux, une couleur pour ceux qui ont été supprimés uniquement dans l'une, et une couleur... Si un universitaire veut faire une étude approfondie de la nature des coupures selon les approches, je lui remettrai volontiers. Mais enfin, bon, c'est une histoire et le mystère s'épaissit parce que tu dis que l'édition A, c'est probablement intégrale. Alors, je suis tombé sur un site où j'ai pu lire des extraits de l'édition Ace en streaming. Et alors, j'ai aussitôt vérifié et je n'y ai trouvé... J'ai cherché, est-ce que je trouvais des trucs de la version intégrale? Je ne les ai pas trouvés. Il semblerait que ce soit le même texte que celui de Penguin. On fera la vérification, mais...
Je te prêterai le...
Oui. Ah, mais tu l'as... Non, alors, c'est peut-être le site qui m'a induit en erreur. Hein. Peut-être qu'il met en ligne le texte de l'édition Penguin en prétendant que c'est Ace. Bon, enfin, c'est pas grave.
J'ai l'impression, parce que moi, j'ai pas relu intégralement dans le S, mais si on regarde le nombre de pages, le nombre de signes, la longueur, alors, ça correspond bien à l'intégrale.
Ça, c'est la preuve.
Et d'autre part, Wolheim, qui avait de certains défauts, mais beaucoup de qualités, ne pratiquait pas ça. Hein. Mais par contre, il avait parfois des habitudes un peu bizarres. Il a fait une première édition américaine du Seigneur des Anneaux parce qu'il pensait que le Seigneur des Anneaux n'était pas, en tout cas c'est comme ça qu'il s'est défendu, n'était pas protégé aux États-Unis.
Oui, ça arrive.
Alors du coup, comment il s'appelle, le Seigneur des Anneaux, l'auteur du... enfin l'auteur du Seigneur des Anneaux, Tolkien évidemment, merci. Tolkien, du coup, alors Tolkien était très très empoisonnant. Il voulait pas d'édition de poche, il voulait pas de réédition. Moi, j'ai lu tout ça dans la première édition Allen et Unwin, anglaise. Mais alors, du coup, il était obligé de faire affaire pour une édition de poche, d'ailleurs, avec Ballantine aux États-Unis, avec un contrat tout à fait légal, et Wolheim, qui, je pense, a percé les droits, mais enfin, Wolheim, donc, a été écarté du jeu, bon, c'est pour dire. Wolheim a été quand même aussi, bon, ça n'a pas de rapport immédiat avec notre sujet, mais le grand éditeur qui a soutenu Philippe K. Dick à ses débuts. Il a publié au moins 20 romans de Philippe K. Dick. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il donnait à Dick des avaloirs qui étaient à peu près équivalents à ceux qu'on recevait au Fleuve Noir, où je publiais, à la même époque. Donc l'Amérique n'était pas une Amérique pleine d'or, comme nous l'espérions bien à tort. Et alors, il faudrait peut-être qu'on parle, et je vais laisser Patrick en parler, de l'extraordinaire qualité, de l'extraordinaire originalité de ce livre qui mérite, à mes yeux, vous direz mes préfaces, d'être classé à côté, dans les anti-utopies du XXe siècle, du meilleur des mondes, du Nous autres Amiatines, du 1984 de George Orwell. Donc c'est de la même qualité, au moins en ce qui concerne la pensée, si ça n'est peut-être pas toujours sur le plan strictement littéraire. Mais
ben, je préfère, sur le plan de l'analyse littéraire, tu étais infiniment mieux placé que moi. Moi, je peux parler et je pourrais répondre à vos questions sur des aspects particuliers liés à la traduction, l'abondance des jeux de mots dans ce roman de Wolfe qui joue un rôle, des détails qui ont changé significativement par rapport à la traduction précédente, des choses comme ça. Je peux vous en parler, ne serait-ce que pour vous encourager à acheter la nouvelle édition du livre de poche. Mais pour ce qui est de utopie, dystopie et qualité littéraire, Gérard, j'en prie, c'est toi, je confirmerai si tu veux.
Gérard, qu'est-ce qui t'a fasciné?
Ah, il vous suffira de lire mes deux préfaces et de jeter le bouquin pour le savoir. Enfin, je vous conseille quand même de passer plutôt les préfaces si ça vous ennuie et de lire le livre. Bernard Wolfe écrit ce livre donc au début des années 1950. L'Amérique sort de la Seconde Guerre mondiale et en particulier au milieu des années 40, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une manifestation devant le Capitole, si je me souviens bien, enfin, j'ai trouvé cette trace dans tout à fait un autre ouvrage. Il y a une manifestation de soldats américains, de GI, amputés, et qui protestent avec énergie parce qu'on ne leur donne aucune aide pour vivre avec leur amputation. Même si l'Amérique, enfin les États-Unis, ont été relativement généreux avec leurs GIs, en leur offrant par exemple, j'en ai connu qui en ont bénéficié, la possibilité de faire des études. Et pour les amputés, ils ont pas fait ce qu'il fallait. Et d'ailleurs, ça s'est reproduit après la guerre de Corée, après la guerre du Vietnam et encore aujourd'hui, après la guerre d'Irak, enfin, etc. Donc il y a un problème de ce côté-là. Alors, cette manifestation a fait un bruit considérable, et on peut le comprendre à l'époque, et je suis tout à fait convaincu que Bernard Wolfe en a entendu parler. Donc d'où les AMP, probablement, ont une partie de leur origine là. D'autre part, il s'appuie, enfin si je puis dire, sur les ouvrages qui sont à peu près contemporains du fondateur de la cybernétique, Norbert Wiener, personnage également tout à fait extraordinaire, dont je vous recommande de lire les livres qui ont été réédités récemment. Je dirais même que son principal ouvrage sur la cybernétique n'a été traduit que tout récemment. Alors il y avait eu Cybernétique et Société, l'ouvrage actuel, je ne me souviens plus quel est le titre français. Enfin, c'est un peu, c'est parfois scientifiquement un peu musclé, mais enfin, ça peut très très bien se lire. Et il est accompagné d'un appareil critique qui est très très important et qu'il faut lire. Et alors, Wolf donc part de Norbert Wiener, mais il s'appuie aussi sur une foultitude de lectures. C'est un homme dont la culture semble considérable. Si bien que dans mes préfaces, j'ai précisé pour un certain nombre des auteurs qu'il cite de qui il s'agissait, simplement pour aider le lecteur actuel, le lecteur contemporain, à s'y retrouver. Évidemment, quand Wolf cite Sigmund Freud, ce n'est pas absolument indispensable. Mais enfin, quand il cite tel ou tel, c'est préférable. Donc il y a un abrégé, en quelque sorte, des problématiques et de la culture de ces années 1950, du début des années 1950 américaines. Et en même temps, il y a une actualité extraordinaire de ce livre, parce que c'est la question « comment éviter la guerre ?» bon, elle se pose toujours. La solution donnée. Alors, ce que je trouve aussi extraordinaire dans ce bouquin, mais je ne voudrais pas le déflorer pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est que la solution donnée est complètement absurde. Si on prend les autres grandes anti-utopies que j'ai citées, bon, ce sont des solutions qui s'inscrivent dans le droit fil, en quelque sorte, des sociétés du temps, que s'agisse d'Huxley, Zamiatin qui condamne le léninisme, Orwell, enfin, qui condamne les totalitarismes, mais Bernard Wolf, ben, excusez-moi, mais je fatigue là, ça fait deux jours, ils m'ont mis à rude épreuve. Bernard Wolf imagine, à partir de cette manifestation dont je vous parlais, quelque chose de tout à fait inattendu, c'est-à-dire l'amputation volontaire pour ne pas faire la guerre. Et il utilise aussi une autre forme d'amputation, ça je peux en parler, ça apparaît dans les premières pages, une autre forme d'amputation qui est la lobotomie préfrontale, qui avait été, avant ces années-là, utilisé à gogo par des incompétents notoires et qui servait à traiter absolument tous les maux, depuis la dépression jusqu'à l'énurésie infantile. Enfin, bon, vous verrez un peu plus de détails dans mes préfaces. Donc, Wolf... alors, la lobotomie préfrontale a disparu avec l'utilisation de la chlorpromazine, enfin, et des produits, des psycholeptiques. Mais les psycholeptiques posent eux-mêmes, notamment dans certaines sociétés, des problèmes à partir d'une utilisation contre les dissidents. Donc c'est un livre, je trouve, pour l'avoir relu à pratiquement un demi-siècle d'intervalle, je trouve absolument fabuleux, prodigieux, par son originalité, par ce qu'il dit de son temps et du nôtre.
Oui, alors, il y a une postface, il y a des notes de l'auteur dans la nouvelle édition, et rien que pour ça, ça vaut la peine, parce que c'est la seule fois où on lit Bernard Wolf parler de son roman. Nulle part ailleurs, j'ai pas trouvé d'interview, j'ai pas trouvé de citation de lui. Donc là, il explique, et entre autres, il explique une chose très forte, c'est que il ne prétend pas, ça se passe, l'action se passe jusqu'en 1990, et s'écrit en 1950. Il explique qu'il ne prétend pas du tout prévoir ce que sera 1990. Il dit en fait, il regarde l'année 1950, qui, comme toutes les années, ne se complétera jamais et passera autre chose. Mais 1950, comme si 1950 durait pendant 40 ans et s'amplifiait. Et donc, il décrit, en fait, la société de son époque, de son année, 1950, voilà. Et quelqu'un a écrit que quand on lit Limbaud aujourd'hui, on revisite un passé en faisant un détour par un futur qui n'a jamais existé. Alors c'est une formule compliquée, je vous laisse la méditer, mais il y a souvent de ça. Et en plus j'ajouterais que limbo, c'est un peu comme le bon vin, hein, ça s'est bonifié en vieillissant parce que on le lit avec ce recul. Il est vraisemblable que quand les gens qui l'ont lu en 52, ils étaient en pleine guerre froide. Alors ils y ont lu la guerre froide, mais nous on lit une guerre froide qui, je touche du bois, s'est arrêtée, va peut-être reprendre, mais on est bien après l'événement, donc on relit, on redécouvre, on découvre comment les gens pensaient, réfléchissaient. On voit la société américaine aussi des années 50. Et alors Woolf se gêne pas, il tape dans la société, dans ses contemporains, dont 1 sur 15 finira dans un asile de fous, 9 sur 10 sont des... Enfin, il est impitoyable avec sa société. Mais on lit les années 50, et ça m'a vraiment plu. Et j'ajouterai que sur le plan de la traduction, je me suis attaché à utiliser une terminologie qui est de l'époque. Il y a des piles atomiques. Il n'y a rien de nucléaire, ou peut-être une fois parce qu'il est terre, mais je parle de trucs atomiques. Il y a des solénoïdes, bien sûr, des trucs comme ça. Je n'ai pas essayé de moderniser la technologie, c'est celle des années 50.
Je veux dire, en ce qui concerne ce décalage temporel, ça fait penser un peu au film Brasil, que vous avez vu. Qui est Brasil, c'est le futur d'un passé. Il y a un peu de ça dans la lecture qu'on peut avoir aujourd'hui du livre de Bernard Woolf. Alors, le personnage de Woolf lui-même reste quelqu'un de très énigmatique, parce que ni Patrick, qui est beaucoup plus expert que moi dans l'art de faire des recherches sur Internet, ni moi, et ne parlons même pas des gens de chez Lafon, nous n'avons pas trouvé grand-chose sur la vie de Bernard Woolf. On connaît une petite bibliographie. Mais pourquoi il a écrit ce roman à ce moment-là, on sait vraiment, il est mort assez jeune, on ne sait vraiment pas grand-chose sur sa vie, enfin ce qu'il a fait. Il a été journaliste, il a écrit, tu veux peut-être en parler, une vingtaine de... Il dit avoir appris à écrire.
Il est tombé sur un millionnaire ou milliardaire américain qui était un grand amateur de littérature érotique et qui lui a commandé 10 romans érotiques pour sa seule consommation, si j'ose dire. Hein. Donc, ils n'ont pas été publiés, à ma connaissance. Mais c'est comme ça qu'il a appris à écrire, parce qu'il a passé 10 mois à écrire 10 romans qui ont apparemment plu aux milliardaires. Il a été relativement actif dans les mouvements de gauche aux États-Unis. Et il a eu l'honneur d'être, il était tout jeune, secrétaire, garde du corps de Léon Trotsky. Alors, ça fait sourire souvent les gens, pour dire, garde du corps, c'est pas bon pour son CV, mais il a cessé son travail bien avant que le pauvre Léon se fasse tuer à coups de pique à glace. Il a écrit un autre roman que j'ai commandé et que j'ai reçu, là, juste avant de venir ici, un roman d'espionnage, dans lequel il se livre également à des considérations philosophiques. On peut dire que Bernard Woolf avait certainement la particularité de se servir de ses romans pour exprimer ses idées. Ça, il y a des auteurs qui ne se distancient pas beaucoup comme ça.
Pour ce que j'en sais, il est entré en contact avec le millionnaire amateur de romans érotico-pornographiques par Anaïs Nin. Ce qui signifie une chose, c'est qu'il connaissait... Il avait des relations dans le milieu littéraire pointu, enfin Miller, Henri Miller, Anaïs Nin, enfin, etc., et qui eux, ont très certainement écrit aussi pour ce millionnaire. J'espère toujours qu'on publiera un jour ces livres.
Alors ça permet de rebondir sur le statut de la femme dans Limbo, qui est un peu particulier quand même. On parlait des années 1950, mais là il y a un statut qui n'est clairement pas celui, enfin, qui n'est pas celui des années 50. Qu'on projette.
Alors oui, ça va certainement choquer des lecteurs, mais je dirais que c'est des opinions personnelles de Bernard Woolf, qui partageait les idées de son maître, j'oublie toujours son nom, un psychanalyste, avec qui il avait fait sa psychanalyse d'ailleurs, et qui prêchait le fait que le masochisme était le moteur principal de la pulsion principale de la psyché, et on retrouve cette notion de masochisme tout au long du roman, c'est vrai. Et puis qu'il y avait aussi des thèses sur la frigidité féminine, l'orgasme clitoridien, l'orgasme vaginal. J'ose pas utiliser l'expression, mais Wolf en était imprégné, certainement. Et donc il y a deux, trois remarques qui m'ont un peu choqué quand je les ai traduites, mais le traducteur n'est pas un censeur, je les ai laissées. Vous remarquerez quand vous lirez qu'à deux occasions, il laisse entendre que, ben oui, peut-être qu'au fond, ben, quand une femme est violée, peut-être que, ben, quelquefois, c'est peut-être bien parce qu'elle est consentante. Alors, c'est sûr que dans les années 50, je suis convaincu que ça passait sans aucun problème. La preuve en est, c'est qu'encore tout récemment, c'est le genre de point de vue que certains républicains américains ont exposé en disant qu'une femme qui tombe enceinte lors d'un viol, c'est qu'en fait, elle le voulait bien. Bon, voilà. Donc, ces deux petits bémols, et dans le roman, c'est sûr que la seule femme qui joue il y a deux femmes dans le roman. Il y a sa femme, Ouda, et puis il y a l'espionne, Nine, là, qui joue alors elle un rôle, c'est Mata Hari. Bon, mais là, sur le rôle de la femme, c'est évident, c'est quand même un roman des années 50. C'est pas une femme qui est héroïne, elle est pas fantastique. Il n'y a pas de femme fantastique, c'est que des hommes. Il n'y a que ces remarques sur le viol qui m'ont gêné.
Il faut quand même faire remarquer que sa femme, enfin la femme, bon, je vais encore une fois pas déflorer le livre, mais avec laquelle qu'il a épousé, avec laquelle il vit dans une île lointaine, cette femme qui est beaucoup plus normale, enfin, qui est beaucoup plus actuelle, si je puis dire.
Elle est normale, oui.
Elle est normale. Elle appartient à une autre société. Donc, ce que Wolf critique, ce n'est pas la femme en général, c'est la femme américaine.
Oui,
l'expérience qui s'en est faite. C'est assez intéressant de rapprocher ça de l'image de la femme américaine que donne, par exemple, Philip K. Dick, qui n'est pas non plus idyllique.
Ah oui, mais je crois que oui. Là, il y aurait ça a dû être déjà écrit, l'image de la femme donnée dans la SF, au travers pendant longtemps, elle figurait uniquement sur les couvertures de Pulp Magazine, en tenue légère. Jack Vance a pris dans ses romans à des personnages féminins beaucoup. Et Heinlein aussi, tu as raison.
Heinlein aussi.
Surtout qu'il devient lui-même une femme. Enfin, le héros milliardaire se réveille dans le corps d'une femme. Alors là, on a les deux tableaux, c'est bien.
Oui, non, mais chez Poul Anderson aussi, il y a des personnages féminins importants. Donc il y a probablement eu un basculant. Puis il y a aussi une amélioration de la qualité littéraire de la science-fiction américaine. Dans les années 1950, regardons ça d'un peu plus loin, dans les années 1950, il se passe à peu près simultanément aux États-Unis et en France une transformation complète de la façon dont la science-fiction est publiée, de ce qui est publié. Les pulps américains grand format avec des images très belles d'ailleurs disparaissent. Ils sont remplacés aux États-Unis par deux revues petit format, c'est-à-dire considérées comme intellectuelles, enfin, qui sont The Magazine of Fantasy and Science Fiction et Galaxy. Et en France, avec quelques années de décalage, apparaissent les collections fondatrices comme Présence du Futur et apparaissent la revue Fiction, qui est partiellement l'édition du Magazine of Fantasy and Science Fiction, la revue Galaxy, dans une première version qui n'est pas terrible, mais enfin qui sera relayée plus tard par Galaxy 2 chez Opta. Donc ce qui est très très intéressant, c'est que tout ça se passe entre 1950 et 1955 à peu près, dans les deux pays en même temps.
Alors c'est amusant, tu évoques le Magazine of Fantasy and Science Fiction, là, qui a été, comme tu t'en souviens, co-créé par... J'oublie le second, mais le premier, c'était Anthony Boucher. Je ne sais pas si les gens par ici se souviennent d'Anthony Boucher, qui a été un des grands noms dans l'édition, les anthologies, Boucher en américain. dans les années 50 et 60. Et alors, j'y pense parce que quand Limbo est sorti, Boucher, qui était quelqu'un qu'on écoutait, a émis un jugement sur Limbo. Il a dit que c'était pretentious hodgepodge, littéralement un salmigondi prétentieux. Donc il a pas aimé du tout. Il a trouvé que toutes les considérations philosophiques, métaphysiques de Wolfe étaient ni faites ni à faire et qu'il s'est embêté. Et il n'est pas le seul, mais suffisamment de gens l'ont trouvé génial. Il y a des gens qui ont été rebutés par les jeux de mots qui sont quelquefois des calembours assez drôles, mais il y a des gens qui sont allergiques. Et c'est pour ça, je ne sais pas si quelqu'un aura la question, puisque personne apparemment n'a lu la nouvelle édition, mais le moment venu, moi ce que j'attends c'est des retours de lecteurs pour me dire, ben finalement on préférait la première, parce que là c'est trop long. Je comprendrais tout à fait ça, c'est pas le même roman, la nouvelle édition c'est pas le même roman, je considère qu'il est infiniment supérieur encore, et je suis toujours émerveillé de voir que suffisamment de gens ont trouvé la première tradition française, l'ont trouvé suffisamment génial dans sa première traduction française. Ça veut dire que le roman lui-même est sacrément solide pour survivre à un traitement de ce genre. Voilà.
Je propose d'ouvrir, parce qu'il nous reste quelques minutes, d'ouvrir la discussion et les questions au public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Deux questions.
Oui, bonjour. D'abord, merci. Allô ?
Oui.
Alors, bonjour. D'accord, très fort. Là, ça va ?
Très mauvais.
Ok. Alors, merci pour cette nouvelle édition traduction, tout ça. Moi, j'ai lu effectivement le texte charcuté il y a une petite dizaine d'années. J'avais trouvé ça génialissime. Donc, la nouvelle version devrait être encore plus génialissime. Ma question est, comment pouvez-vous être sûr que le texte d'où vous êtes parti soit vraiment le texte d'origine, tel qu'il a été édité aux US.
Je
ne
peux pas en être sûr.
Merci.
Je peux pas en être sûr. Personne ne peut en être sûr. La seule façon, mais je n'ai pas réussi encore à me le procurer, ce serait de procurer l'édition originale. Je suis allé sur iBooks, etc. J'en ai trouvé une, mais c'est un prix quand même prohibitif. Mais je ne désespère pas. Mais j'en suis convaincu à cause de sa longueur, parce que c'est déjà sacrément long. Deuxièmement, parce que je n'y décèle pas de hiatus. Je n'y vois pas de passage. Vous savez ce qu'on appelle une solution de continuité. Il y en a dans la traduction française et dans la traduction de Penguin aussi. Il y a des endroits où on a recollé des trucs, mais on voit les traces de sparadrap hein, quand on lit attentivement. C'est bizarre, là. C'est pas exactement d'équerre. Il s'est passé quelque chose entre les deux. Il n'y a pas cette impression-là dans le truc. Mais je vous confirmerai le jour où j'aurai enfin l'édition d'origine, ou quand... mais l'édition d'origine, ce sera vraiment la bonne. Celle de Ace, on pourra toujours avoir le même soupçon. Mais j'en suis convaincu. 99,9%.
Oui, je vois pas du tout pourquoi l'éditeur d'origine aurait introduit des coupures. Alors ça, c'est la responsabilité d'un éditeur dans le colloque singulier avec son auteur. Bon, ça, c'est un autre problème. Enfin, je ne vois pas du tout pourquoi l'éditeur d'origine aurait introduit des coupures.
Non,
ensuite, l'éditeur français, il a fait ce dont on a parlé. Et puis Penguin, alors là, on ne sait pas non plus du tout pourquoi ni comment ça s'est passé avec l'accord de l'auteur ou quoi. Alors, nous avons cherché avec... il s'appelle l'auteur de l'encyclopédie.
L'encyclopédie, j'oublie son nom, mais c'est pas grave. Je suis un peu plus jeune que toi, mais je suis le même chemin.
Lui a accès à des ressources considérables. Et nous avons cherché, parce que j'ai pensé un temps, qu'il avait pu exister une version courte parue en magazine, ce qui a très souvent été le cas. Or, il n'en a trouvé aucune trace, vous voyez que ça n'a jamais existé.
Non, il y a une trace, mais ce n'est pas une version courte, c'est la nouvelle. Wolfe a commencé par publier une nouvelle beaucoup plus courte, et c'est cette nouvelle qui lui a inspiré ensuite l'écriture du roman. Alors là, il l'a développé. J'ai malheureusement pas non plus encore réussi à mettre la main sur cette nouvelle. Peut-être que je la trouverai en ligne.
Alors, moi, avant une question, donc, Peut-être une remarque par rapport, effectivement, moi aussi j'ai lu le roman dans son ancienne version, donc je l'ai beaucoup aimé, donc je vais découvrir la nouvelle. Alors je pense qu'effectivement il y a des dimensions très particulières, des images très particulières, donc Gérard Klein il avait parlé de la lobotomie, qui rejoint la perte d'émotion, en fait la perte d'empathie qu'on voit souvent en science-fiction, et qu'on voit également, la lobotomie, on la voit je pense dans d'autres romans, hein. Je pense à un roman de John MacDonald dont j'ai oublié le titre. Alors peut-être que Gérard Klein en connaît d'autres. Alors par contre, la dimension masochiste qui est extraordinaire dans le roman, comme vous le disiez, elle se voit peu finalement. Hein. Elle est très peu, aussi bien en science-fiction qu'en littérature. Masochisme, peut-être automutilation un peu plus, on la voit très peu. Et moi, ça me renvoie à un film, au metteur en scène Todd Browning, celui qui a fait Dracula ou La monstrueuse parade, qui a également fait un film qui s'appelle L'Inconnu, dans lequel le héros du film, pour ne pas être violent ou pour ne pas, on va dire, embrasser sa fiancée à laquelle il doit renoncer, se coupe les bras. Vous voyez, donc ça c'est un film extraordinaire, un peu surréaliste, et on ne peut pas s'empêcher de penser à ce film quand on lit Limbo. Alors, donc ma question, c'était, est-ce qu'il y a d'autres dans la science-fiction d'autres images du masochisme comme ça, ou de l'automutilation.
L'automutilation, oui.
Bon, comme ça, mais ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Non, j'en vois pas. De même, pour la lobotomie, je vois pas non plus. Cela étant, la science-fiction est un continent immense et à peine exploré, largement inexploré, donc c'est possible. Mais non, je ne vois pas.
En tout cas, bravo pour votre culture, et puis c'est une très belle référence. Hein. Là, c'est vraiment l'automutilation des deux bras. D'accord, Todd Browning, oui, ok. Je crois que j'ai vu un ou deux films de Browning, oui, mais celui-là ne me dit rien. Oui. Alors évidemment, il y avait, mais c'est autre chose, l'automutilation pendant la Première Guerre mondiale, ça c'est... C'était autre chose, c'était pour échapper à l'horreur. Mais...
C'est un film, c'est un drame de la jalousie, vous voyez, c'est un drame, disons, c'est un film muet, hein, donc il date d'une époque, c'est un drame de la jalousie, mais réellement, le héros fait sa faille.
Parlez bien devant le...
On ne le voit pas, mais à la fin du film, on le voit sans bras, vous voyez. Il a renoncé à, voilà, pour ne pas être violent ou pour ne pas embrasser sa fiancée.
D'accord.
Est-ce qu'il y a une dernière question? Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, je vais vous remercier pour votre participation à cet échange, et je remercie évidemment
Merci à tous. Merci beaucoup.